Voici donc venu le temps de la désobéissance, ce mot désobéissance qui revient comme un refrain aujourd'hui pour des militants, mais aussi de simples citoyens lambda qui refusent l'inaction du gouvernement en matière de climat, notamment. Ce mot de désobéissance pris en charge par une jeunesse qui a compris que les votes, les pétitions et autres manifestations ne suffisaient plus. De la grève scolaire au décrochage de portraits du président, en passant par les blocages ou les marches masquées, on ne compte plus ces actions non violentes qui évoquent, non sans panache, une certaine conception de la démocratie. Celle d'un Henri David Thoreau, par exemple, qui au milieu du 19e siècle aux États-Unis déplorait que le bon citoyen tergiverse, déplore et quelquefois pétitionne, mais n'entreprenne jamais rien de sérieux ni d'effectif. Dans ce texte fondateur qui s'intitule « La désobéissance civile », il écrivait que les gens qui, tout en désapprouvant le caractère et les mesures d'un gouvernement, lui concèdent leur obéissance et leur appui, sont sans conteste ses partisans les plus zélés et par là fréquemment l'obstacle le plus sérieux aux réformes. Et plus loin, cette phrase toute simple à laquelle je pense chaque fois que j'entends parler de ces actions aujourd'hui en France qui valent à leurs jeunes auteurs garde à vue, violence, prison, fichage, j'en passe et des pires. Il existe des lois injustes. Consentirons-nous à leur obéir?
Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. À quoi désobéit mon invité d'aujourd'hui? Elle est comédienne, vous l'avez découverte chez Claude Chabrol et Chantal Akerman il y a 18 ans. Depuis, elle est l'une des voix les plus reconnaissables du cinéma français. C'est sur les planches du théâtre de l'Atelier qu'on la retrouve actuellement, dans Mademoiselle Julie, la pièce d'August Strindberg, dans une mise en scène de Julie Brochen, l'histoire d'une femme étouffée par les conventions qui transgressent, qui défient, qui désobéit, justement. Bonjour Anna Mouglalis.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Ce matin, la désobéissance, à votre avis, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Tiens.
Est-ce que ça s'apprend? Je suis pas sûre.
Vous n'avez pas appris à désobéir, vous?
Pas vraiment. Ça s'est proposé, je crois, un petit peu tout seul. Mais c'est vrai que j'ai grandi grâce aux transgressions. Et il y en a eu de nombreuses.
C'est-à-dire?
Même par rapport à ce métier. J'ai senti très vite le besoin d'éprouver mon autonomie, donc je suis partie.
Pourquoi faut-il qu'il y ait des obéissances? Tiens, c'est la question que je me pose ce matin.
C'est une façon de s'ériger et d'être au monde. Sinon, on n'est que dans une soumission. Et il faut bien que notre monde advienne.
Au risque du désordre?
Oui.
Vous avez ça, le désordre, vous, Anna Mouglalis?
Ça permet de replanter son paysage, le désordre. Mais je crois qu'il est nécessaire.
Alors à quoi est-ce que vous avez le sentiment de désobéir aujourd'hui, par exemple?
Aujourd'hui, j'ai l'impression de désobéir aux conventions sociales aussi. J'ai l'impression d'avoir enfin un espace pour incarner le féminin que je me propose. Mais c'est pas facile.
Qui serait justement difficilement fixable, qui ne devrait pas être figé?
C'est ça. Être tout simplement, ne pas être une projection. C'est l'histoire du personnage aussi de la pièce.
Mais c'est fascinant quand même, parce qu'être comédienne, est-ce que c'est pas justement aussi être une projection? Est-ce que ce n'est pas dans une certaine mesure, Anna Mouglalis, obéir à un directeur, à un metteur en scène, à un texte?
Obéir, non, justement, je ne crois pas. Je pense que c'est travailler avec un metteur en scène et pouvoir éventuellement immiscer des doutes formidables qui vont rendre le projet singulier. Sinon, ce serait juste une répétition. Et c'est la même chose pour les textes. On les fait sonner très différemment. Il y a autant d'interprétations, par exemple, de Mademoiselle Julie que d'actrices et de metteurs en scène.
Alors justement, il se trouve que le personnage de Mademoiselle Julie que vous interprétez, c'est un personnage qui désobéit, qui brise certaines règles liées à son appartenance de classe, à son sexe, puisqu'elle flirte délibérément, c'est l'histoire que raconte Strindberg, avec un domestique. Quel rapport est-ce qu'elle entretient, selon vous, avec l'autorité, tiens, Mademoiselle Julie?
Mademoiselle Julie a besoin à la fois de se conformer à ce qu'on lui demande. D'ailleurs, elle brille dans les yeux du valet qui flirte avec elle parce qu'elle est comtesse, parce qu'elle est habillée, parce que c'est une jeune femme noble. Et en même temps, on apprend dans une séquence où elle raconte son enfance, qu'elle a été élevée comme un garçon, que sa mère a voulu en faire le parfait exemple de l'égalité entre les femmes et les hommes, et qu'elle n'a pas du tout le passé qu'on projette sur elle. Donc elle s'invente aussi son personnage de comtesse.
Et elle est celle qui, tout au long de la pièce, transgresse quand même. Un interdit, un tabou, la pièce a fait scandale, évidemment, quand elle a paru. Et il y a toujours cette ambiguïté. À un moment, elle dit à son valet, au valet de son père, donc, elle lui dit « Donnez-moi des ordres ». Qu'est-ce qu'elle veut dire, au fond?
Ben, elle peut jouer avec ça. Elle ne cesse de lui en donner dans la première partie de la pièce. Mais c'est une façon aussi de, bon, c'est, la pièce est un jeu érotique.
Oui, c'est ça.
En plusieurs rings. Et dans ce jeu, donner des ordres, c'est une façon aussi de répartir le désir.
Et dans ce jeu du désir et de la séduction, Anna Mouglalis, quel rôle joue la soumission, à votre avis?
Elle est aussi une danse. La soumission.
Une danse.
Ben, je pense, oui.
Vous dansez, vous, quand vous jouez?
J'ose avancer que je danse, oui. Je me déploie.
Ce qui est certain, en tout cas, et ce que nous montre la pièce de Strindberg, mise en scène par Julie Brochen, c'est que braver l'ordre social, se jouer des conventions, défier certaines règles, se croire libre, ça a toujours un prix. Quel est le prix pour être libre, à votre avis?
La liberté ou la mort.
Ah, vraiment?
Là, en plus, dans cette pièce, c'est tout le sujet, puisque ce personnage aspire à un absolu qui, quand il lui est refusé, l'a conduit à la mort.
Elle dit à un moment donné, j'ai été élevée dans le mépris de mon propre sexe. Mm-hmm. Cette phrase, prononcée par votre personnage quand même à la fin du 19e siècle, en quoi est-ce qu'elle résonne encore aujourd'hui, pour vous?
Moi, je me sens régulièrement confronté à ça, mais bon, que ce soit dans mon milieu, le milieu du spectacle, ou dans la société en général, en France, dans plein de pays, le féminin est toujours remis en cause. Et à partir du moment où il décide de s'exprimer, de s'incarner, de s'ériger, on le fait toujours, on le discrédite. Moi, ça fait pas longtemps, par exemple, que j'ai le droit d'être intelligente.
Qui vous l'a donné, ce droit?
Moi, je me le suis donné toute seule. Mais ça a été un long parcours pendant tout un temps. Il y avait beaucoup de méfiance par rapport à ça.
Y compris dans votre éducation, dans la façon dont vous avez été élevée, Anna Mouglalis?
J'ai été élevée dans une famille dans laquelle on m'a donné accès aux livres. Je pouvais lire tout ce que je voulais. J'ai eu accès au cinéma. Grâce à la culture, justement, j'ai pu définir un féminin qui n'était pas enfermé dans le cadre familial.
C'est une bonne question. Comment faire, en fait, pour que ce mépris du sexe féminin, comme le dit Strindberg, appartienne définitivement au passé?
C'est une grande histoire, puisque tous les mouvements féministes, à chaque fois, ont de grands élans, et on se dit qu'en une décennie, tout va se faire.
Et puis souvent, il y a un backlash.
Tout le temps. Tout le temps. Là, vraiment, ce qui s'écrit en 1888 en Suède, ce qu'écrit Strindberg, c'est incroyable. C'est la mère de Mademoiselle Julie décide qu'elle refuse le mariage. Elle décide d'élever sa fille comme un garçon. Elle décide aussi qu'à la ferme, les femmes vont s'occuper des tâches des hommes et les hommes des tâches des femmes.
Oui.
C'est très avant-gardiste. On n'en est toujours pas là.
Et il est toujours question de désir. Vous avez remarqué, y compris dans cette pièce, on en parlait, la question de la condition féminine est indissociable de la manière dont est perçu le désir féminin. Pourquoi est-ce que le désir féminin a été construit depuis toujours, à votre avis, comme quelque chose de tabou? Tiens.
Mais à cause de la possession des ventres.
Qu'est-ce qui fait peur? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait peur, à votre avis, dans le fait qu'une femme désire?
Je pense que c'est l'angoisse de la paternité, ne pas savoir que l'homme ne sache pas s'il est le père ou pas, c'est terrible. Donc il faut enfermer la femme et qu'elle subisse le désir, mais qu'elle soit pas désirante. Sinon, on dit quoi, que c'est castrateur. Non, mais les choses bougent. Et il y a un nouveau féminin et il y a un nouveau masculin. Ça avance à petits pas, mais je sens que ça avance.
Vous trouvez votre place dans ce nouveau féminin, justement?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et qu'est-ce qui vous fait peur, vous?
La violence me fait peur, beaucoup. Enfin, la violence, c'est-à-dire la sauvagerie, la brutalité, et pourtant je sais qu'elle est au cœur de l'humain. Mais ça anéantit, vraiment.
On s'en sort?
On s'en sort, oui. Oui, oui. On arrive à vivre dans des espaces dans lesquels on peut lutter contre.
Par les textes, justement, parfois.
Mm-hmm. Par les textes, oui.
Ça qui nous fait peur dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Anna, c'est la culture évidemment et son actualité morbide, gore et sordide. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 3 juin ?
Les auteurs du livre ne souhaitent couper la tête à personne, mais ils demandent qu'on ne leur coupe pas les mains.
Hashtag auteur en colère, c'est aujourd'hui que se tient à la Maison de la Poésie le deuxième rendez-vous des états généraux du livre, au cœur des discussions, un meilleur partage de la valeur dans la chaîne du livre. Aujourd'hui, les auteurs français prient entre la hausse des prélèvements obligatoires et l'érosion des ventes touchent en moyenne moins de 8% du prix public d'un ouvrage, soit presque trois fois moins que l'éditeur. Réunis en conseil permanent, les écrivains revendiquent donc 10% minimum de droits d'auteur et demandent une médiation du ministère de la Culture. On soutient. Les Furies en folie. La commune de Châlons-en-Champagne inaugure dès aujourd'hui la 30e édition des Furies, bouillonnant festival de cirque et de théâtre de rue. Pendant 4 jours, chapiteaux, carrefours et places publiques de la ville vont accueillir plus de 20 compagnies venues de toute la France avec leurs spectacles insolites, urbains, poétiques. On pourra profiter des acrobaties des collectifs Générique Vapeur et Gorilla Circus, des chorégraphies des jeunes danseurs de marécage ou des lectures de Nadège Prugnard, par exemple « Gouah à l'art de rue », comme disait l'autre. Netflix and chill, c'est bien. Du pieux au pieux, c'est mieux. Grâce à Arte, qui propose un cycle consacré au cinéaste français et DJ Quentin Dupieux, alias Mister Oiseau, 4 de ses œuvres aussi barrées que jouissives sont disponibles gratuitement sur YouTube jusqu'au 15 août. Au programme Rubber, son premier long métrage perché, consacré au destin d'un pneu meurtrier. Le trailing chien Wrong, sur un propriétaire de chiens parano. Wrong Cops, série zinzin, sur un flic ripou. Et enfin, son non-film, premier moyen métrage réalisé en 2001. Nous voilà bien.
Pour moi, peut-être qu'on le raconte encore mieux, le réel, quand on y touche, parce que chacun peut le ramener à sa propre réalité.
Et enfin, Elle du désir. Hier, le très prescripteur Grand Prix d'électrice de Elle fêtait ses 50 printemps. Pour l'occasion, l'hebdo avait invité l'actrice, autrice et ancien lauréat au théâtre de l'Odéon pour une soirée de récompenses, de rencontres, de lectures. Parmi les grands gagnants de cette saison, on trouve ex aequo Adeline Dieudonné pour La vraie vie et Jasmine Ward pour Le chant des revenants dans la catégorie roman, mais aussi la formidable Alex Marzano-Lesnevich pour L'empreinte dans la catégorie document et Franck Bouys pour Né d'aucune femme côté polar. Bravo les cocos. Et la comédienne Anna Mouglalis, invitée de Boomerang ce matin pour Mademoiselle Julie au théâtre, on en parlait, on est à l'aube du 20e siècle en Suède. C'est la nuit de la Saint-Jean, paysans, domestiques et maîtres célèbrent les moissons et le solstice d'été. Il y a de l'euphorie, il y a de l'ivresse dans l'air et le mot est présent tout au long de la pièce. Cette ivresse, Anna Mouglalis, qu'est-ce qu'il vous évoque ce mot ivresse, tiens?
J'adore l'ivresse. Vraiment. Toutes les ivresses.
Ça sera la phrase de la journée. Oh ouais. J'adore l'ivresse. Je peux le faire ou pas?
J'adore l'ivresse.
Qu'est-ce qui vous enivre alors?
Beaucoup de choses. Bon, on va commencer par le vin. Le vin qui est quand même une merveille. Non, l'ivresse, c'est le lâcher prise. Et c'est formidable qu'il y ait comme ça un élixir qui puisse emmener vers l'ivresse. Ensuite, on est capable de le retrouver sans rien boire. L'amour m'enivre. Il y a des paysages qui m'enivrent.
La Seine.
Oui. Oui, 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 la scène m'enivre complètement. C'est assez fou ce qu'on vit comme acteur. Surtout quand on a une rencontre comme ça avec un tel chef-d'œuvre, c'est extraordinaire parce que c'est sans fin. Le texte se révèle, pourtant il y a un sens premier, c'est naturaliste, c'est sublime. Mais il y a plein de choses à trouver. Le personnage se déploie petit à petit et les représentations peuvent être très très différentes.
Vous vous souvenez de la première fois, Anna Mouglalis, vous avez goûté à l'ivresse de la scène?
La première fois, c'était au concours du conservatoire. J'étais tétanisée par un trac fou. En plus, c'est pas jouer, c'est jouer pour un concours. Et puis, j'ai commencé à faire des blagues pour apprivoiser cette espèce de peur terrible qui me donnait envie de vomir. Même. Et puis, en entrant sur scène, cette peur s'est transformée d'abord en excitation avec ces blagues et puis ensuite en enthousiasme et j'étais ailleurs. C'était voilà comme un voyage, un paradis pas artificiel justement.
Mais quel lieu est-ce que c'est pour vous encore aujourd'hui la scène du théâtre, puisque c'est au théâtre effectivement que tout commence pour vous, même si c'est un lieu où on vous retrouve pas souvent finalement.
Je l'ai jamais beaucoup quitté, mais j'avais du mal à précéder mon désir. comme Mademoiselle Julie, quand on me proposait un an à l'avance de m'engager pour un an, j'avais du mal à me dire que j'allais être sincère avec moi-même.
Pour autant, seriez-vous plus libre sur une scène de théâtre que sur un plateau de cinéma?
Ça, c'est sûr.
Enfin, pourquoi?
Non, ça dépend encore une fois de la rencontre avec le metteur en scène. Parce que c'est un geste, c'est un souffle. Et quand il est lancé, et puis le plateau, c'est vraiment l'endroit de tous les possibles. Au cinéma, tout se traduit économiquement. Donc la moindre idée, voilà, est budgétée. Au théâtre, on est dans la boîte noire. Et tout peut surgir dans cette boîte noire.
Et puis il y a la présence quand même de ce public, ce regard braqué sur vous quand vous jouez sur scène. Vous le vivez comment, ça?
Pour moi, c'est un don. Sentir les gens, c'est, il y a quelque chose de vampirique.
Mais je vous parle de regard, Anna Mouglalis, parce que j'ai l'impression que la scène de théâtre, c'est peut-être l'un des derniers endroits où l'on voit des gens, des corps, même si ce sont ceux de personnages qui s'échangent des regards. C'est la remarque que je me suis faite en voyant votre pièce, justement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se regarde plus?
Regardez des téléphones. Et puis on a peur de regarder. Oui, je me souviens de gens qui regardaient les autres entre les deux yeux, de peur de plonger dans le regard. Il faut prendre ce risque.
À quand remonte la dernière fois que vous avez croisé le regard d'un ou d'une inconnue dans la rue au hasard?
Moi, je crois que je le fais tous les jours.
C'est vrai?
Oui.
Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Mais souvent, les gens sont troublés. De moi maintenant, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus peur. Et puis, je pense que mon regard s'est adouci avec les années.
Vous avez l'impression que vous aimez ça, regarder. D'ailleurs, plus que d'être regardé, non?
Les deux, c'est un cadeau d'être regardé. Je pense que quand on n'est plus regardé, on n'existe plus.
Surtout quand on fait ce métier.
Oui, mais c'est pour tous. Tous ces gens qui sont à la rue et que les regards évitent, c'est déjà une façon de les tuer.
C'est aussi pour ça peut-être que vous le faites, ce métier? Pour continuer à être regardé?
Oui, sûrement. Et puis, parce que ce regard, c'est, enfin, encore une fois, une possibilité de s'inventer et de trouver de la liberté.
Une façon de se tendre un miroir, en fait, que de regarder quelqu'un ou d'être regardé.
C'est ça, comme dans une histoire d'amour. Quand on met son estime dans l'autre, on devient aussi, grâce à cet amour, une personne autre.
Quand vous vous regardez dans un miroir, tiens, qu'est-ce que vous voyez, vous, Anna Mouglalis?
Alors, je suis pas très à l'aise avec le miroir. Je préfère le miroir de l'autre. Je passe pas beaucoup de temps face au miroir. Souvent, d'ailleurs, je pars avec du dentifrice.
Vous n'avez pas ce matin?
Non, parce que je me suis pas lavé les dents.
Ah ben, je vous remercie.
Non, c'est pas...
On aura droit à toutes les confidences, hein, décidément. Puisqu'on parle miroir, moi je vous propose d'être mon miroir à moi, tiens. Ah, Anna, même si je me suis brossé les dents, moi. Et pour l'occasion d'écouter le Velvet Underground et Nico, I'll Be Your Mirror, en 1967, c'est sur France Inter, avec Anna Mouglalis, vous écoutez Boomerang, on est mardi.
I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, a light on your door to show that you're home. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see. Don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, I see you. I'll be your mirror. I'll be your mirror. I'll be your mirror.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Oh bon, il y a quelque part entre la femme fatale, la bretonne, et une version punk de Nana Mouskouri avec des lentilles de contact. Le cheveu noir et ténébreux, l'œil de velours un peu fou et curieux, le sourire carnassier et assez doux, somme toute, la silhouette agile, souple, imprévisible, avec elle tout est possible et on dit oui. On dit oui pour une danse autour d'un feu de joie en plein mois de décembre. On dit oui pour nager jusqu'à la bouée à marée haute par gros temps dans une eau à 15 degrés. On dit oui à la bouteille de raki, un jour de canicule, lors d'une visite guidée de l'acropole. Avec elle, tout ressemble toujours à une bonne idée, avec son petit pull rayé. Ce matin, la comédienne Anna Mouglalis, invitée de Boomerang, pour son rôle dans Mademoiselle Julie, où vous jouez une bourgeoise pétrie de désirs, engagée dans un jeu de séduction avec un domestique. Et ce qui nous saisit immédiatement, évidemment, en tant que spectateur et en tant qu'auditeur ce matin, avant même de vous apercevoir totalement, c'est cette voix. Anna, quand est-ce que vous avez compris que votre voix n'était pas ordinaire? Tiens.
Je l'ai compris assez tôt, à la préadolescence. On me demandait de passer les coups de téléphone aux parents, en me faisant passer pour un adulte.
Donc qui vous demandait ça?
Des copines. Mais non, et puis surtout, quand je suis entrée au conservatoire, on m'a demandé de subir une opération, parce qu'on m'a dit que j'avais une voix qui correspondait pas du tout à mon physique et que je ne travaillerais jamais. Donc ça a été ma première transgression en commençant ce métier. Et je regrette pas.
C'est quand même terrible de demander de subir une opération. C'est une violence.
Oui, oui, non, mais surtout que, enfin, le corps n'est pas une machine. On dit que c'est un outil beaucoup dans mon métier, mais c'est pas une machine et on passe pas comme ça à la réparation. Mais c'était plutôt gentil et à un endroit. Ils avaient raison. Avec cette voix et un physique de jeune première, il y avait un décalage, mais qui m'a permis de rencontrer des gens comme Chantal Akerman ou Claude Chabrol, donc c'était très bien.
Comment vous êtes parvenu à en faire l'une de vos forces, en fin de compte, voix?
Je pense que ce soit la voix ou le regard, c'est un reflet de l'âme. Et si on renie son âme, on va nulle part, ou on devient damné.
La voix sonne, elle peut sonner juste, elle peut sonner faux, et à une époque, il paraît que de votre propre aveu, que vous sonniez faux.
Oui, Chabrol m'avait dit quelque chose de très beau. On avait fait une prise sur Merci pour le chocolat et je lui avais dit, il faisait une prise et puis une prise de secours, mais jamais plus. Et là, je lui ai dit, Claude, c'est pas possible, vraiment, je suis tellement fausse, je joue faux. Il me dit, non, c'est pas des intonations fausses, ce sont des intonations rares. Et qu'un metteur en scène puisse offrir la possibilité de l'intonation rare, même si ça me mettait très mal à l'aise. J'ai trouvé ça très beau.
Mais alors, ça tient à quoi, en fait, sonner juste? Et là, c'est à la comédienne, à la technicienne de la voix aussi, que je m'adresse.
À sonner juste, être un miroir, sans doute. Ce qui est formidable quand on joue, c'est justement de plus se poser la question de la justesse. C'est d'être au présent, c'est le plus difficile. D'incarner. Voilà, c'est mystique en fait.
Et ça vient comme ça? Ou c'est un travail de longue haleine?
C'est un travail de lâcher prise. Vraiment de plus être dans le jugement. Mais ça met des années, enfin, moi j'ai été très lente.
Ça peut ne pas venir, parfois, lors d'une représentation?
Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est ça qui est fou au théâtre. On ne peut pas compter sur la grâce. Jamais.
Quelle phrase! On ne peut pas compter sur la grâce.
Bah c'est vrai, non?
Votre voix, vous avez choisi de la mettre ce matin juste pour nous au service d'un texte extraordinaire de l'écrivaine et poétesse américaine féministe Cathy Hacker, un texte sur l'avortement, extrait de son roman Don Quichotte qui était un rêve, qui était une réécriture féminine et punk de l'œuvre de Cervantes. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce texte-là précisément?
C'est un texte que je porte depuis des années dans mon sac, que je trouve d'une puissance folle. C'est un pastiche du Don Quichotte de Cervantes, qui est aussi un de mes livres préférés. Écrit, c'est un texte punk.
Et picaresque.
Mais oui, donc mais Don Quichotte est une femme et elle devient chevalier en se faisant avorter. C'est un texte féministe d'une puissance folle, très drôle, politiquement incroyable.
Surtout aujourd'hui.
Voilà, voilà. Et donc j'avais envie de le donner.
On vous écoute.
Étant enfin démente, parce que sur le point de se faire avorter, lui vint l'idée la plus folle que puisse concevoir une femme, à savoir aimer. Une femme, comment peut-elle aimer? en s'adonnant à l'amour de quelqu'un d'autre qu'elle-même. Elle aimerait cette autre personne. D'aimer une personne autre, elle redresserait toutes sortes de torts politiques, sociaux et individuels. Elle saurait se faire mettre dans de telles situations si périlleuses que résonnerait haut la gloire de son nom. L'avortement allait avoir lieu sur l'heure. Du cou jusqu'au genou, elle portait du papier vert pâle ou couleur dégueulis. C'était là son armure. Elle l'avait choisie spécialement, car elle savait les conditions de ce monde si âpre pour toute personne allant seule de par les chemins, même riche, que telle personne doit se contenter de ce qu'elle trouve. Point n'est ici-bas un monde pour l'idéalisme. Exemple, nul doute que le papier vert se déchirerait dès le début de l'avortement. Ils lui ont dit qu'il l'allait mener depuis le siège opératoire vers son propre lit en chaise roulante. La roulante chaise serait sa monture, sortit l'inspecter. Elle était à l'article de la mort, la chaise. Une ancienne carne, pareille à toutes les carnes du monde qui tire le diable par la queue. Dorénavant, comme toute carne qui se respecte, ivrogne à plein temps, elle rabâchait fort ce propos de sexe que non seulement elle ne pratiquait plus, mais n'était même plus pourvue des simples moyens ou de l'équipement requis pour se faire, et traînait par conséquent, parmi les autres bons à rien, à savoir... femme se faisant avorter.
À la fin de ce texte, magnifique, Katia Hacker écrit « Laisser partir son esprit veut dire mourir. Elle avait besoin d'une vie nouvelle, fallait qu'elle se rebaptise. Quand l'esprit quitte le corps, Anna Mouglalis, qu'est-ce qui reste ?»
Une promesse, de vie pour l'autre.
Qu'est-ce que c'est un corps pour vous ?
Un talisman.
Un outil aussi.
Un outil, mais je ne veux surtout pas le faire objet, c'est tout le sujet aussi de Katiek. C'est-à-dire que le droit à l'avortement, c'est fondamental, il est remis en cause partout. C'est aussi pour ça que j'avais vraiment envie de lire ce texte. Que ce soit en Argentine, les femmes se battent encore. Bon, en Irlande, ça vient de passer, mais aux États-Unis, c'est remis en cause dans plein d'États. C'est fou. Et là-dessus, ben voilà, on parlait de cette espèce de remise à zéro à chaque fois de
backlash,
des acquis féministes. C'est insensé, et ça sera de tout temps. Donc, il faut être absolument un chevalier.
Il faut être absolument chevalier, comme ce Don Quichotte au féminin. Il y a quelque chose de révolutionnaire dans ce texte encore aujourd'hui. C'est un texte de 1986 et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Anna Mouglalis, effectivement. C'est comme le texte d'Auguste Strindberg. C'est dramatique qu'il soit encore d'actualité.
Eh oui. Bon, après, on parle toujours de cette espèce de roue de l'histoire. Mais c'est dramatique. C'est dramatique et c'est profondément humain. On mettrait jamais fin à la barbarie. Après, c'est très important de lutter contre, tout de même. Et c'est pour ça que la figure de Don Quichotte me fascine. Il se bat contre des moulins, et pour lui, ce sont des monstres, et il impose son réel à tout le monde. C'est ça, je pense qu'il faut toujours écrire son réel, rêver, et faire de ses rêves une autre qualité de réalité.
Au risque de passer pour un fou, pour une folle.
Ouais, tant mieux.
Désobéir, c'est être un peu fou, non ?
Ouais, ça c'est sûr. Et puis ça fait peur. Mais la peur, c'est aussi le désir.
Merci infiniment, Anna Mouglalis, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Mademoiselle Julie, mise en scène par Julie Brochen, qui joue aussi à vos côtés. Et puis avec l'excellent Xavier Legrand également, le réalisateur de Jusqu'à la Garde.
Il est sublime. Quel partenaire. C'est extraordinaire de jouer avec Xavier. C'est grâce à lui que j'ai rencontré Julie Brochen et qu'on a pu faire ce spectacle. C'est un rêve, ce spectacle. Moi, j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie d'actrice.
C'est au Théâtre de l'Atelier, jusqu'au 30 juin prochain, on l'espère, bientôt en tournée. Anna, tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Les gens, quand ils sont les uns dans les autres, s'alléger de tous leurs tourments, veulent-ils se laver de toutes leurs fautes, veulent-ils retrouver la moment rare où l'on flotte, où l'on pense enfin avoir trouvé le produit, le remède, le vaccin, l'antidote. Faire, faire, faire l'amour. Faire, faire, faire l'amour. En simulant au cœur mon premier jour.
Sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia de Villers, l'instant M.
Et des gens.